Bonsoir, et bien deuxième partie de l'émission Ondes Noires. Et on espère retrouver le monsieur, l'écrivain qui se cache sous le pseudonyme D.O.A.
Il est toujours là.
Il est toujours là.
Il est toujours là, c'est super. Donc on parle de ce livre sorti en février à la Série Noire qui s'appelle donc Citoyen clandestin. Tiens, au fait, pourquoi ce titre, Citoyen clandestin? Bon, on commence à en avoir une idée avec les services secrets, mais c'est beaucoup plus large. C'est aussi un des sujets, c'est la manipulation.
Oui, mais le titre a vraiment sa base première, c'est vraiment le contexte dans lequel tout le monde évolue. C'est-à-dire que je voulais l'appeler Service discret au début. Bon, le titre était déjà pris pour un roman sur la CIA, donc je pouvais pas l'utiliser. Et puis ça pouvait prêter à confusion et avoir une connotation légèrement différente de celle que j'indiquais. Parce qu'en fait tous ces gens qui évoluent dans mon livre, que ce soit les services secrets d'un côté militaire, ce qu'on appelle communément les espions, les islamistes ou les services de renseignement de l'intérieur, qui sont eux pas vraiment des espions, c'est les renseignements généraux et la DST, c'est pas exactement des espions. Tout cela vivent une vie clandestine, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie professionnelle, ou enfin leur vie, quand je dis professionnelle, c'est au sens large, parce que les islamistes ont une vie professionnelle en tant que terroristes, mais ils ont aussi une vie autre, personnelle, qui est très séparée de leur vie privée. Et donc ils sont clandestins vis-à-vis de tout le monde, et ils sont aussi clandestins vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que au bout d'un moment, ils sont enfermés dans une logique de pensée où finalement tout ce qui les entoure peut être remis en question. Que rien de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont n'est vrai.
Et même la journaliste, qui est pourtant a priori pas clandestine au début, elle finit par avoir une vie légèrement clandestine, enfin au moins légèrement différente de sa vie personnelle, avec son mari entre autres.
Tout à fait, et par extension, effectivement les deux journalistes qui sont impliqués là-dedans sont amenés vis-à-vis de leur propre direction, mais de leurs confrères, et puis petit à petit vis-à-vis de leurs proches, à s'éloigner de la réalité commune, on va dire, pour rentrer dans une réalité beaucoup plus clandestine et essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour ça, ils ont besoin de se plonger, de s'immerger dans une certaine logique de pensée et de fonctionnement. Donc effectivement, eux-mêmes deviennent clandestins. Après, psychologiquement, il y a vraiment le second aspect, c'est que tous ces personnages sont des clandestins de leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils finissent par ne plus savoir où ils sont, qui ils sont et où est la réalité, où est leur réalité par rapport à la réalité, qu'est-ce qui fait plus réalité que ce qu'ils font. Tout ça génère un sentiment de distance et de clandestinité par rapport à Monsieur Tout-le-Monde, qui fait que, il me semblait que le titre citoyen clandestin, parce que ce sont tous des citoyens, quelque part.
Oui, c'est aussi ce mot citoyen, aussi son importance, je dirais presque au niveau sémantique. Parce que la citoyenneté, bon, on en parle malheureusement beaucoup en ce moment à tort et à travers, mais ça veut dire aussi une légitimité. Oui, ça veut dire une appartenance à un groupe, à un pays,
oui,
à une nation.
C'est l'appartenance à une communauté plus que l'appartenance à une nationalité, en fait. C'est, on est dans une vie et on est citoyen de cette vie, d'un système de loi, etc. Et ça a son importance parce que tous ces gens-là s'inscrivent là-dedans. Après, ils sont en décalage par rapport à ça, mais ils s'inscrivent quand même par rapport à ça. Enfin, ils existent par rapport à ça. Donc, le titre c'est un peu imposé de lui-même assez vite d'ailleurs, parce que il y avait ça. Alors, je ne nie pas. Je vais le dire maintenant parce que c'est quelque chose qui m'a été dit. Moi, je suis un grand admirateur de James Ellroy. Encore, je l'étais déjà avant, mais je le suis encore plus depuis qu'il a attaqué Underworld USA, donc sa dernière trilogie. Et quelque part, dans le mot clandestin, il y a aussi un petit hommage à un de ses travaux précédents, quoi. Un de ses livres précédents. Il y a un peu ça.
Alors, tout à l'heure, j'ai employé le mot manipulation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté délibérée de l'écrivain de manipuler son lecteur? Dans ce livre, il y a vraiment des récits multiples, c'est très labyrinthique. Les personnages, forcément, c'est la situation qu'il veut, mais ont de multiples identités, de multiples noms. Est-ce que, quelque part, vous avez eu envie aussi d'avoir une espèce de contact avec, avec les lecteurs par rapport à une certaine manipulation, une espèce de livre dans le livre, enfin, de spirale de manipulation dans le livre?
Alors, il y a différentes couches de connaissances dans le livre, en sens que il y a des choses qui ne sont pas immédiatement évidentes. Je pense qu'il y a des choses que les gens ne peuvent comprendre qu'avec une relecture, parce qu'il y a tellement d'informations qui sont données dedans que c'est vrai qu'il faut pouvoir faire le tri. Il y a dans la construction, je ne vais pas en parler ici parce que sinon ça gâche un peu le plaisir des gens, mais il y a un moment particulier qui effectivement fait comprendre que d'un certain point de vue, le comme certains protagonistes ont été manipulés depuis le début du livre. Mais le foisonnement d'informations et le côté labyrinthique, en fait, c'est plus là encore une volonté de rendre compte de ce que c'est que la réalité des services. Parce que c'est vrai que quand on parle des services ou des espions dans la presse, on en a souvent une version qui est une version résumée et expurgée.
Et
qui rend finalement très peu compte de la difficulté de ce que c'est que la collecte et l'analyse d'informations. On a affaire à des choses qui sont en mouvement permanent, qui sont sans cesse complétées par de nouvelles informations. Parmi ces informations, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Il y en a des pertinentes et qui ne le sont pas. Il y en a des vraies et des fausses. Et un des grands problèmes de n'importe quel service de renseignement, c'est de pouvoir faire le tri pour pouvoir sortir une hypothèse probable ou une tendance ou une action en cours. Évidemment, je sais qu'il y a eu tout un tas de théories qui ont été lancées après le 11 septembre, comme quoi les Américains l'auraient laissé faire parce qu'ils l'avaient vu venir, etc., etc. Je pense qu'à posteriori, c'est très facile de dire ça. Je crois qu'au moment où l'action était en cours de préparation, on pouvait peut-être se dire qu'il y avait un risque, mais mobiliser d'énormes moyens pour contrer ça, je ne crois pas qu'ils étaient en mesure de le faire, parce que je pense que personne n'aurait pu le voir. Il y a trop de choses, c'est noyé au milieu de trop de choses.
Dans le tri des informations, c'était pas possible, en fait.
Et donc, le livre, il rend un peu compte de ça dans sa construction, parce qu'effectivement, il donne au lecteur plein d'informations. C'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors, j'ai simplifié les choses, hein, parce que, évidemment, après, le but, c'est quand même pas non plus de rendre la lecture désagréable pour tout le monde, mais c'est un peu pour donner ce que c'est que l'impression de quelqu'un qui est dans ce milieu-là et qui est confronté à ce flot d'informations. On est obligé de faire le tri, on est obligé de réfléchir à ce qu'on voit et d'essayer de dégager une tendance, et c'est pas facile.
Et il y a un petit corollaire à ça. Donc en fait, c'est pour l'acquisition donc des informations. Il y a certaines scènes de violence dans le roman, voire de torture, qui sont assez dures. Bien qu'elle soit décrite, du moins de mon point de vue, sans complaisance, mais est-ce que c'était vraiment pour rendre réaliste, quoi? Elle pensait que ça se passe vraiment comme ça, ou?
Ah bah, que ça se passe vraiment comme ça, on le sait. Les techniques d'interrogation sont des choses qui ont été raffinées au fur et à mesure qu'on a évolué dans le temps. On s'est aperçu, par exemple, que les techniques qui étaient uniquement fondées par la douleur ne donnaient pas de bons résultats, parce qu'au bout d'un moment, les gens finissent par dire ce qu'on a envie d'entendre pour faire cesser la douleur. Et donc, on a une information qui n'est plus une bonne information. Le but, c'est quand même d'avoir une information claire et vraie. Donc, on a mis au point des techniques qui passent par le profilage des gens qu'on va interroger, par leur affaiblissement. Qu'on appelle la régression, donc on les met dans des conditions où petit à petit leur défense naturelle, physique et psychologique tombe pour qu'ils soient moins préparés à résister à des questions, et puis après des questionnements qui, par des méthodes de répétition, par le ciblage justement opéré au niveau du profilage, par une bonne connaissance de l'histoire de la personne en question, par les bonnes pressions appliquées sur les ressorts psychologiques de la personne, finissent par permettre à l'interrogateur, qui en général n'est pas seul, là j'ai pris une petite liberté avec la réalité, de trier et d'obtenir des informations qui sont des informations vraies. C'est là qu'on arrive à faire les premiers promoteurs de ça. On a nous en France parce que l'Algérie c'était des crus, hein.
Oui.
Anglais ont une très bonne expérience en Irlande. Les Israéliens ont une très bonne expérience, les Américains en ont une aussi. Toutes ces méthodes, elles s'interpètent les unes les autres pour propagation. Elles sont utilisées. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu à Guantanamo, on l'a vu à Paris. Ces méthodes-là, elles sont en cours d'utilisation. Elles font partie de la collecte d'informations. Et elles après, on peut les condamner. Par rapport à ça, j'avoue pas avoir une position très très claire là-dessus. C'est-à-dire que en tant que pays démocratique, elles sont plein. En tant que pays où il faut réglementation, je suis pas sûr si c'est évidemment, elles font des dommages latéraux. Ce sont des détections d'utilisation. Nous, elles n'ont rien à faire.
On va changer un petit peu de sujet, parler aussi de ce qu'on appelle des grandes qualités de ce roman, c'est le style, avec ses chapitres très courts, très rythmés, qui ressemblent souvent, en fait, à une composition musicale. D'ailleurs, c'est un rythme, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a souvent parlé de thriller en parlant de ce bouquin, parce que ça, c'est vraiment tout le temps, ça à bout de souffle tout le temps, et ça ne s'essouffle jamais, de la première à la 700e page. Et est-ce que la musique est très présente? Il y a d'ailleurs une playlist à la fin du livre. Est-ce que pour vous, c'est indispensable? Est-ce que les mots s'accompagnent toujours de musique?
Alors moi, je travaille en musique. Et il est évident que la musique avec laquelle je travaille, c'est une des grandes vertus de la musique, elle arrive à générer... Parce que j'écoute beaucoup de choses très différentes, hein. J'ai pas de style, même si dans ma biographie il y a marqué que j'aime David Bowie, la musique électronique, c'est déjà très réducteur par rapport à l'ensemble des choses que j'écoute, mais enfin il fallait dire quelque chose, donc j'ai dit ça. Une des grandes vertus de la musique, c'est d'arriver à faire naître en nous des émotions, assez fortes. Et parfois ces émotions, elles sont assez intéressantes à retranscrire par mots. C'est pas toujours facile à faire. Et moi, j'ai voulu le faire. J'ai voulu donner à voir quelles étaient les émotions qui me traversaient au moment où j'écrivais certaines choses. Donc, j'ai attaché ça très particulièrement à un personnage qui est le personnage de Lynx, parce que finalement, c'était dans ces moments-là, ces émotions à lui qui m'importaient le plus. Par ailleurs, la musique, dans son cas à lui très particulier, c'est un gimmick qui annonce que quelque chose va mal se passer derrière, parce qu'en général, il en écoute quand il y a quelque chose qui merde.
Ça fait beaucoup penser au cinéma, ça, la musique des films américains qui arrivent pour annoncer ce qui va un peu se passer.
Je sais pas si c'est une réflexion très consciente, le parallèle avec le cinéma chez moi, mais en tout cas, c'était une volonté de dire, d'annoncer en tout cas. En fait, dans les films, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils mettent une musique particulière pour un personnage particulier.
Tout à fait.
C'est-à-dire que, par exemple, il y a le thème de Dark Vador dans La Guerre des Étoiles. Chaque fois que Dark Vador arrive, il y a sa musique qui arrive avant pour annoncer qu'il va arriver. Donc, du coup, il y a une anticipation de ce qui va suivre. Donc là, j'ai pas une musique particulière, j'ai un ensemble de musique, mais il y a que ce personnage qui écoute de la musique. Donc on sait qu'à chaque fois que on est à nouveau dans une plage musicale, il arrive et il va se passer quelque chose. Donc ça, c'était aussi un truc d'écriture, hein, c'était ça. Après, sur l'organisation des chapitres en musique, si vous voulez, ça c'est quelque chose que je n'ai pas voulu. Alors si c'est le cas, c'est très inconscient. Si ça marche, c'est encore mieux. Il faut savoir que j'étais nul en musique, donc j'ai jamais rien compris à la musique. Je suis un musicien minable.
Bah avec les mots, vous rythmez bien, ça va.
J'ai eu des moyennes de flûte au collège absolument dramatiques. Donc c'est un phénomène qui est indépendant de ma volonté. Le rythme des chapitres, il vient en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le livre, au début, il y a beaucoup de petits chapitres très court, hein. Enfin, petite partie très courte et rythmée, et puis il y a un moment donné où les chapitres s'allongent. Ça vient d'un truc très bête, c'est qu'au début, tous les personnages sont séparés parce qu'ils suivent tous des itinéraires qui sont les leurs. Et il y a un moment donné où ces itinéraires commencent à se croiser. Et c'est quand les itinéraires commencent à se croiser que les chapitres s'allongent.
Oui, en fait, on passe au départ, c'est comme un petit peu comme des images, et ensuite on passe à des scènes plus longues.
Voilà, il y a des vignettes. Et les vignettes finissent par donner des séquences, et les séquences finissent par donner des scènes, et les scènes donnent donne des séquences d'action, etc., etc. Donc, le rythme, il vient de là. Il vient aussi de la construction chronologique du livre qui part d'une date qui est en mars 2001 et qui va jusqu'au 21 avril, enfin, jusqu'au 22 avril, exactement, 2002. Et qui suit en parallèle et quasiment en temps réel les actions. Bah, quand je dis quasiment en temps réel, c'est que c'est pas tous les jours, toutes les heures. C'est, il y a des sauts dans le temps. Mais qui suit en parallèle et chronologiquement toutes les actions de tous les personnages principaux pour voir où ils se trouvent à chaque instant. Donc c'est aussi ça qui a conditionné la construction en chapitres plus courts.
C'est pour ça que j'ai parlé d'un récit de tous ces personnages France, ce qui est beaucoup moins aux États-Unis. Mais vos deux premiers, c'était quand même pas le même style. On peut parler de c'est plutôt tendance fantastique. Celui-là, me semble-t-il, est ancré dans mon mémoire.
Dans
l'espionnage, que c'est son tétébéré ou rien que
en fait, c'est le résultat de deux envies chez moi. C'est-à-dire que, d'une part, je pense que tous mes livres s'inscrivent dans une logique de roman noir. C'est pas parce qu'on leur met, par exemple, dans le premier, c'est pas parce qu'on lui met une dimension légèrement anticipative que c'est pas un roman noir. Que ça répond pas aux critères du roman noir. C'est juste que la thématique, elle va chercher un peu en avance dans le temps, mais ça ne suffit pas à le classer dans un pur livre de science-fiction. Pour moi, c'est un roman noir d'anticipation, ce qui est pas exactement ce qui est pas un livre.
Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a dit plutôt anticipation que science-fiction. Quoi,
ouais, mais c'est vrai qu'en plus, j'avais fait un raccourci pour vous laisser parler le plus possible et je voulais parler de roman noir d'anticipation, roman noir fantastique et roman noir espionnage.
La logique de la démarche entre les trois livres, c'est qu'effectivement, pour moi, ce sont trois romans noirs. Alors, après, le problème, c'est que on a tendance à mettre les gens les enfermer dans des cases. Et que je vous avouerai que moi je me sens un peu à l'étroit dans les cases, donc je ne m'interdis pas, je me le suis pas interdit avant et je ne me l'interdis pas à l'avenir, de continuer à mélanger des genres. Parce que c'est finalement un des grands intérêts du métier d'auteur, c'est quand même de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et si on se contraint dès le départ ou si on s'interdit d'explorer des choses parce que on va être casé dans tel truc, c'est un peu ennuyeux. Donc moi, je pense que le thème général reste le roman noir dans les trois bouquins, et qu'après, effectivement, il y en a un qui a cherché un peu du côté de l'anticipation, un autre qui a cherché du côté du fantastique, encore que le réalisme et le fantastique se côtoient et se chevauchent pas dans ce livre-là, et le troisième qui est un peu un roman d'espionnage.
Ben, merci beaucoup. Donc, j'ai rappelé le titre de ce livre qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup intéressés.
En tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli. Hein.
Et vraiment, je le recommande. Alors, juste 30 secondes pour dire qu'on peut vous rencontrer. En plus, non seulement le livre est passionnant, mais discuter avec vous est très intéressant. Et on va pouvoir vous rencontrer dans une semaine à Frontignan.
Exactement.
Et vous pourrez dédicacer et discuter avec vos lecteurs.
Et j'espère que vous y verrez. Vous y êtes, vous, à Frontignan?
Pas de problème, on boira du muscat ensemble.
Ben, pas de problème.
Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Donc, je rappelle le titre, encore une fois, Citoyen clandestin à la série noire. Si vous le trouvez pas sur votre libraire, il faut le réclamer. C'est vraiment un roman pour les vacances.
Et justement, je rappelle le nom du premier aussi, qui s'appelait Fou d'avril au fleuve noir, que j'avais aussi particulièrement bien aimé, dont on avait parlé ici.
Jacques, on n'a plus le temps. On souhaite à tout le monde de bonnes vacances et de super lectures.
Et une bonne fête de la musique.